RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h11, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Je vous rappelle qu'à partir de 8h, on retrouvera Christian Pessé qui sera à mes côtés pour 2h dédiées à la maison. Avec là encore vos questions, bricolage, maison, déco. Et je vous ferai gagner un joli petit séjour dans un bel hôtel du côté de Gérardmer. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. Patrick, pour cette deuxième partie, on va essayer de remplacer les traitements par d'autres choses.
Alors on va essayer d'expliquer comment, petit à petit, on va arriver justement à remplacer les méthodes classiques d'aujourd'hui qui vont devenir obsolètes à la fois...
Obsolètes et interdites.
Voilà, non mais je veux dire obsolètes à la fois par la législation et aussi par le comportement des jardiniers. Il y a une prise de conscience réelle du fait d'être plus, on va dire, naturaliste que simplement exploitant de la nature. Et donc, tout cela va faire que nos modes de regard et d'intervention au niveau du jardin... Alors que, j'insiste, la protection des plantes ne doit surtout pas être mise de côté. Le regard angélique de certains qui dit « la nature est belle, bonne, généreuse et il suffit de rien faire et ça va aller très bien
non.
parce que l'équilibre se fait », ça c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas comme ça. Tout simplement parce que nos jardins ne sont pas des espaces naturels dans lesquels on accepte qu'il y ait n'importe quoi. Et puis en plus, quand on fait un potager ou un verger, on veut aussi un peu de production, vous voyez. Donc il y a quand même des petites règles de base qu'il faut quand même remettre et connaître. Alors donc on va parler de tout ça avec deux experts, mais vraiment des experts de terrain, des gens qui sont totalement dedans tous les jours. Déjà avec nous, Jacquemy. Jacquemy est le directeur de l'UPJ, donc l'Union des professionnels de la protection des jardins. Et puis aussi, vous êtes le président de... Alors comment on appelle ça? Du comité du biocontrôle?
De l'Académie du biocontrôle.
L'Académie du biocontrôle. Voilà. Parce qu'on va parler beaucoup de ce mot biocontrôle qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Et puis nous avons avec nous au téléphone Guillaume Morot qui est à Lyon et qui est le directeur général de Scotts France. Scotts France, c'est des marques bien connues, Fertiligène, KB, Naturen. Bonjour Guillaume, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour François et bonjour Jacques.
Bonjour Guillaume.
Alors, je disais, mes amis, c'est un fait incontestable. Les maladies, donc les champignons, les virus, les bactéries, les ravageurs, donc les insectes, les acariens, beaucoup d'autres choses, les adventices, donc ce qu'on appelait les mauvaises herbes, causent quand même des pertes de récoltes significatives et on ne peut pas laisser les choses comme ça. Or, on nous interdit aujourd'hui, ou plutôt demain, d'utiliser les moyens qu'on a habituellement. Jacques.
Oui, c'est tout à fait demain, puisque à partir du 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires de chimie de synthèse seront interdits.
Pour les amateurs.
Pour les amateurs, hein, c'est bien.
Alors on va pas rentrer dans le débat, mais il y a quand même un paradoxe qu'il faut quand même bien
souligner. Oui.
C'est que les gens qui nous nourrissent, à savoir les agriculteurs, eux, vont continuer à avoir le droit d'utiliser ces substances alors que on nous brandit, notamment au niveau du ministère d'écologie, que c'est pour des raisons de santé publique qu'il faut absolument que les jardiniers arrêtent de traiter. Et d'autre côté, bon, effectivement, on va continuer à nous abreuver ou nous nourrir avec des plantes qui vont avoir été traitées. Guillaume, en tant qu'industriel, votre position, elle est à quel niveau par rapport à cela?
Bien, c'est vrai que 2019, c'est demain. Il faut savoir qu'on parle de produits industriels qui nécessitent de la recherche et du développement. Il faut savoir que pour mettre sur le marché un produit d'entretien des plantes, qu'il soit d'origine de synthèse ou d'origine naturelle, il faut à peu près 10 ans entre l'idée du produit et sa commercialisation dans les grandes surfaces de distribution où vont les jardiniers. Donc vous voyez que 2019, c'est pas 10 ans, mais c'est 2 ans et demi. Et aujourd'hui, nous n'avons pas forcément toutes les solutions de remplacement. Donc nous sommes un peu inquiets sur les utilisations, sur les moyens qu'auront les jardiniers à leur disposition à partir du 1er janvier 2019.
Mais en même temps, on a l'habitude de vous présenter, vous, vos entreprises, comme des méchants chimistes, mais il y a belle lurette que vous vous intéressez à d'autres moyens, et dont ceux dont on va parler au cours de cette émission, pour pouvoir justement remplacer systématiquement ce qui peut l'être.
Bien sûr. Par exemple, vous avez cité une de nos marques, KB, qui est la marque de produits de jardin, je crois, la plus connue en France. KB, nous avons lancé notre première gamme dite KB Environnement au début des années 90, donc j'allais dire à la fin du 20e siècle. Et plus de 20 ans plus tard, nous n'avons pas encore toutes les solutions, malgré des efforts en recherche et développement soutenus depuis 20 ans. Nous sommes encore à la recherche de solutions naturelles pour remplacer parfois la chimie de synthèse.
Oui, parce que Jacques, le problème, c'est pas forcément non plus d'avoir le produit ou la solution de remplacement, c'est aussi être capable de l'appliquer dans des conditions simples pour tout le monde.
Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver la solution, ensuite il faut la produire, et oui. in fine, il faut que la solution elle soit adaptée à des amateurs, parce qu'on est bien en train de parler à des jardiniers
amateurs, bien sûr.
Amateurs, et donc il faut que l'on trouve une solution adaptée, facile à utiliser, et fiable, c'est-à-dire qui fonctionne, quelles que soient les conditions, etc. L'efficacité, c'est quand même le minimum.
Quoi. Alors, justement, avant de rentrer dans ces solutions, moi, je voudrais qu'on parle quand même du regard vers le jardin qui commence quand même à se modifier, et des méthodes, parce que on va essayer, je pense, désormais, de ne plus être dans l'idée de « Ah, j'ai un problème, je vais éradiquer ce problème », on va être plutôt dans l'idée de se dire « Je vais faire en sorte d'éviter que ce problème arrive », même si c'est pas toujours vraiment très faisable.
Voilà, c'est le principe même des nouvelles approches, c'est-à-dire de dire « Bon, on n'attend pas d'avoir le problème et la solution qui va bien, j'ai des pucerons, je sors le pulvée, il n'y a plus de pucerons », ça c'est
terminé, ça.
En plus, je pense que les gens ont évolué et se sont dit « Il y a peut-être d'autres solutions ». Donc, effectivement, il faut penser autrement et se dire « Dans mon jardin, je vais faire en sorte que des équilibres s'installent et que finalement, bon, ben, je vais avoir quelques pucerons, mais souvent, quand on a quelques pucerons, et bien après, on a les ennemis naturels des pucerons qui arrivent naturellement dans le jardin, et l'équilibre s'installe.
Oui, c'est donc tout simplement une régulation de la population, quoi, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au lieu de parler d'éradication, on parle de contrôle du niveau des populations, ce qui est complètement différent, quoi.
Messieurs, on revient dans un instant, il est 7h18. Vous avez des questions ou des témoignages sur ce sujet, puisqu'on parle aujourd'hui des traitements du jardin, bah justement sans produits chimiques. Vous voulez participer, vous voulez témoigner, poser vos questions, allez-y, 3216 ou jardin@rmc.fr. On est là dans un instant. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Comment protéger les plantes sans produits chimiques? C'est notre rendez-vous de ce samedi matin dans le jardin avec Patrick Mulan et nos invités. Tiens, nous avons David qui nous dit « J'ai appris que les limaces ont un point faible particulièrement étonnant. En effet, elles sont complètement gagates de la bière. En somme, elles s'intoxiquent à l'éthanol comme les humains, mais à en mourir. » Il suffit de rechercher piège à bière et limace pour s'en rendre compte, et ça marche visiblement chez lui. Alors Patrick, on en parlait pendant la pub, vous ça marche moins bien.
Ah, moi j'ai essayé, évidemment, parce que j'essaye tout ce que je peux trouver. J'ai jamais piégé une seule limace avec les pièges à bière.
Ouais. Alors donc, Corélie a essayé, notre productrice, elle disait que ça marche.
Elle disait que ça marche. Alors bon, c'est peut-être que j'ai pas utilisé la bonne bière, ou je ne sais pas.
Ouais. Bon, peut-être qu'il préfère de la pression, en fait, c'est peut-être ça. Voilà, c'est
peut-être difficile. Non, mais en même temps, les pièges à bière, il y a des pièges qui sont bien fichus, mais ils sont peut-être tellement complexes que les limaces, elles préfèrent aller directement boulotter vos salades plutôt que de rentrer là-dedans.
Mais tiens, mais dites-nous si vous avez des petits remèdes de grand-mère, on va dire, pour faire chasser comme ça les indésirables dans votre jardin. Appelez-nous 3216 ou bien jardin@rmc.fr et laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle.
Alors, je voulais voir quand même avec Guillaume, qui, dans son entreprise, ne fabrique pas que des produits de soin des plantes, ils fabriquent aussi des engrais, des amendements, etc. Est-ce que la première base, c'est pas d'essayer justement de créer un sol de très très bonne qualité, de manière à ce que les plantes soient aussi costauds que possible, parce qu'à la limite, plus on est en bonne santé, et moins on est malade. Enfin, ça c'est vraiment...
Exactement, Patrick, vous avez tout à fait raison. C'est aussi un des messages qu'on voudrait faire passer à nos amis jardiniers. Et ce qui est d'ailleurs assez remarquable, c'est que la pratique culturelle, l'entretien du sol du jardinier amateur est encore très faible. Et c'est vrai qu'une plante bien nourrie, c'est une plante plus forte et c'est donc une plante qui résiste mieux aux maladies. Et donc l'entretien de la plante, ça commence par l'entretien du sol. Donc que ça soit par l'apport de terreau et puis aussi par l'apport d'amendements qu'on vient mélanger au sol et ensuite par l'apport d'engrais, qu'il soit minéral ou organique, pour nourrir la plante tout au long de l'année. Vous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission, le jardin c'est pas forcément un espace naturel et donc la plante a besoin d'être nourrie. Et ça, quand on regarde un peu les chiffres du marché, on se rend compte que le jardinier l'a pas forcément compris. Et c'est vrai que si on nourrissait mieux nos plantes, on aurait aussi besoin de moins les traiter.
Oui, d'autant plus que quand on fait un potager, par exemple, on a des cultures de cycles rapides qui reviennent toujours sur le sol, même si on fait une rotation des cultures, et qui forcément épuisent le sol. Donc il vaut bien redonner quand même au sol de temps en temps ce qu'on lui a pris. Alors on a aussi aujourd'hui quand même la volonté de naturaliser un peu le jardin. J'ai découvert en préparant l'émission une chose assez extraordinaire qui montre quand même qu'il y a certains équilibres qui peuvent se créer, et c'est l'INRA qui travaille autour de ça sur la mouche de l'olive, s'est rendu compte que dans un environnement donc un peu plus naturel qu'une oliveraie industrielle, on a donc d'abord des prédateurs, des oiseaux, des araignées, fourmis, ouais, tout ça qui arrive, mais surtout on s'est rendu compte que les plantes elles-mêmes sauvages servaient d'abri à des prédateurs de la mouche de l'olive. La mouche de l'olive, c'est une plaie absolue qui pond à l'intérieur de l'olive. Il y a un petit ver et puis ouais, du coup votre olive, elle vaut plus rien. Et donc on s'est rendu compte que des plantes comme l'inule visqueuse, comme la laitue des vignes, comme l'asphodèle rameux, la molène à feuilles sinueuses, eh bien, en fait, étaient des véritables abris à des auxiliaires encore plus ou moins inconnus ou qu'on n'utilise pas de façon industrielle. Et la nature faisait pas si mal les choses.
Mais alors, comment on fait, comment ils rentrent en contact tous les deux, en fait?
Comment ils rentrent en contact? Ben, c'est-à-dire que, non, la plante...
Le fait d'avoir à proximité d'un olivier ces plantes-là...
Voilà, va... héberge des prédateurs,
d'accord,
aux prédateurs.
Ok, voilà, c'est ça. Voyez.
Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, on faudrait qu'on parle un petit peu de la situation quand même parasitaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi, j'ai vu quand même qu'il y avait une cinquantaine de nouveaux ravageurs arrivés sur notre territoire depuis le début 2000, Jacques.
Oui, c'est ça.
C'est quand même impressionnant.
C'est impressionnant, alors que les gens, ils ont l'impression que c'est une situation bien établie, mais non. Parce que, bon, il y a le réchauffement climatique, il y a les échanges internationaux, il y a tout ça qui fait que l'on a systématiquement des nouveaux ravageurs qui arrivent, des nouveaux champignons, des nouveaux insectes. Par exemple, en ce moment, pour le côté champignons, on a la chalarose du frêne, ben, qui attaque les frênes. Pour le moment, on est un peu démunis.
Voilà, on connaissait pas ça avant.
Voilà, on connaissait pas.
Alors, j'ai une statistique invraisemblable qui dit que si l'on ne soigne pas les cultures, on aurait 42% du potentiel de récolte perdu, 13% par les champignons pathogènes, donc les maladies, 14% par la concurrence des mauvaises herbes, des adventices, et 15% par les ravageurs. Guillaume, vous avez des chiffres un petit peu comme ça dans votre métier?
Oui, alors effectivement, ce qu'on fait, Patrick, c'est que quand, bien entendu, avant de mettre sur le marché nos produits, nous les testons en nature, en pleine nature, en taille réelle, pour voir s'ils fonctionnent. Et donc, pour évaluer leur efficacité, nous avons ce qu'on appelle des parcelles témoins, qui sont donc non traitées, et nous regardons l'efficacité de nos produits, puisque bien entendu, nous ne proposons aux jardiniers que des produits qui marchent. Et ça, c'est aussi un point important quand on parle de solutions alternatives. Alors, en tous les cas, quand on a nos parcelles témoins, on se rend compte qu'effectivement, un jardin non traité, c'est forcément un jardin qui donne moins en récolte, c'est évident.
Messieurs, on revient dans un instant, il est bientôt 7h30, météo info, et on continue donc comment protéger les plantes sans produits chimiques.
Et là on parlera du biocontrôle, de toutes les méthodes de biocontrôle.
Voilà, le 32-16 si vous voulez nous joindre, nous donner nos astuces, vos astuces ou bien vos témoignages ou vos questions hein, sur ce sujet. On vous attend, 32-16, à tout de suite. Patrick, petite question flash, attention.
Oui, oui.
Concentration, la question d'Eliott maintenant, Eliott de Compiègne. Comment se débarrasser, Patrick, de ces petites bestioles noires qui font des trous sur les feuilles de mes choux et de mes navets?
Ah, ça, on a affaire à ce qu'on appelle l'altise potagère. L'altise potagère, donc, c'est une sorte de petit coléoptère. Alors, c'est petit, hein, ça fait 2 mm, 2,5 mm, c'est noir, effectivement. Et ça va essentiellement sur les plantes de la famille des... qu'on appelait les crucifères dans le temps, que maintenant les botanistes appellent les brassicacées, c'est-à-dire les choux fleurs. Ça va sur le colza aussi, ça va sur les radis, ça va très bien aussi sur les navets. Alors donc, en fait, vous en avez... d'abord, ils vont sur les conifères, pardon, sur les crucifères sauvages, et puis après, bah, ils vont dans les potagers. Alors, ça ponce sur le sol, au voisinage du collet. Hein, c'est-à-dire, le collet, c'est l'endroit où la tige vient avec la racine. Et ça commence à se développer. La larve, elle commence à ronger un petit peu les racines. C'est pas tellement peut-être les dégâts les plus visibles, mais peut-être un petit peu les plus redoutables. Et après, ça vous perce les feuilles d'une façon assez redoutable. Alors, des petits trous partout. Donc, vous allez faire quoi là-dessus? Eh bien, on va d'abord essayer de prendre des mesures préventives. Donc, si vous avez de la moutarde sauvage, du colza, des giroflées ravenelles, tout ça qui pousse tout autour de votre jardin potager, bah, vaudrait mieux les biner, parce que comme ça, ça évitera justement que la génération arrive et vienne envahir vos plantes à vous. Et puis, vous pouvez mélanger avec vos choux, eh bien, des plantes qui vont avoir une odeur vraiment très différente. Par exemple, des poireaux ou mettre des tomates, etc. Alors, il y a des gens qui disent qu'on peut broyer de l'ail, etc. Ça, je suis pas trop sûr que ça puisse fonctionner vraiment. Il y a des insecticides, évidemment, bio qui sont autorisés encore et qui le seront plus tard, qui sont notamment à base de pyrèthre naturel. Donc là, vous restez. Ou alors, vous mettez un voile. C'est très bien.
RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
8h25. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et bonjour si vous venez de nous rejoindre. Sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts, le jardin jusqu'à 8h et puis ensuite on changera d'univers avec la maison et Christian PC. Ce matin avec Patrick Mulan et nos invités, on évoque les plantes sans produits chimiques, comment protéger son jardin sans produits chimiques puisque vous le savez, on aura accès eh bien de moins en moins à ces produits. On en parle avec nos invités et nous avons Raymond, Patrick, qui est avec nous au 32-16.
Oui.
Bonjour Raymond.
Oui, bonjour François, Patrick, bonjour à vos invités.
Bonjour. Parlez Raymond, bien dans le téléphone, hein, Raymond, parce qu'on vous entend pas très bien.
Ah d'accord. Bon, mais oui, je vous disais, j'ai une invasion de coccinelles cette année dans la maison.
Ah.
Et des coccinelles de toutes les couleurs. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des... Alors, bon, est-ce qu'elles sont valables comme les rouges qu'on trouve d'habitude pour éradiquer les pucerons? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je dois en faire de ces coccinelles?
C'est pas la couleur de la coccinelle qui fait l'efficacité. En général, elles sont toutes efficaces. Celles qui viennent dans la maison, c'est souvent Harmonia axyridis, la coccinelle asiatique qui avait été introduite, on va dire, de façon un peu... intempestive,
accidentelle,
et qui, elle a pris la niche écologique de certaines espèces de notre indigène de chez nous, et aujourd'hui elle prolifère pas mal. Jacques, ça pose des problèmes ces coccinelles? De toute façon, quand elles sont dans la maison, elles viennent simplement se protéger. Après, vous pouvez avec un petit coup de balai les sortir. Surtout maintenant, elles vont aller se répartir dans la nature et elles seront efficaces sur les pucerons, c'est sûr.
Non, ça pose pas de problème dans la maison. Bon, bah, oui, comme vous dites, un coup de balai et puis on s'en débarrasse et elles vont faire le travail dans le jardin, peu importe la couleur en effet. Et quant à la coccinelle asiatique, c'est vrai que c'était une espèce qui n'était pas indigène qu'on avait introduite. Et maintenant, donc, quand on peut effectivement, par exemple, dans les jardineries, trouver des larves de coccinelle, mais il y a une obligation maintenant, on ne peut produire que des espèces indigènes. Justement pour éviter ce qui s'est produit avec cette coccinelle qui a
une souche aptère, donc sans aile, qui s'appelait coccibelle. On la voit plus non plus?
Non plus.
Non plus. Donc non plus. Uniquement, on prend les animaux du pays. Bah d'ailleurs, Guillaume, vous en avez, vous, dans votre gamme?
Oui, bien sûr, nous proposons des coccinelles. Donc, nous livrons directement chez le jardinier.
Oui, parce qu'on ne peut pas trouver ça stocké dans un magasin.
Ben, disons que ce sont des organismes vivants, hein, donc c'est vrai que le délai est très court entre le moment où la coccinelle est au stade de larve et où d'ailleurs elle mange le plus de pucerons, et le moment où elle est adulte, et là où c'est peut-être plus difficile de la retenir dans le jardin, puisque, comme vous l'avez dit, elle a des ailes, et elle peut se déplacer à l'extérieur du jardin. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on a, en parallèle aux coccinelles, on propose des semences de fleurs qui attirent les populations d'insectes utiles, dont les coccinelles, pour faire que les coccinelles restent dans son jardin. Mais oui, nous vendons ces coccinelles. Vous pouvez trouver sur, par exemple, lapeaujardin.fr ou jardinage-raisonné.fr, qui sont des sites qui proposent ce genre de produits-là.
Pardon, moi, elles se reproduisent parce que j'en ai de toutes petites, et puis tous les jours, j'en ai des nouvelles.
Oui, ça c'est normal. Hein. Vous êtes au printemps, c'est la période de reproduction privilégiée pour les insectes. Et il y en a effectivement qui pas mal, mais
donc Raymond, il faut rien faire pour Raymond. Il les laisse faire, donc elles iront directement.
Ah bah il remet dans la nature et elles vont se débrouiller. De deux choses une, soit elles vont trouver suffisamment de nourriture et elles vont vous faire vraiment un nettoyage de votre jardin assez sympa. Soit elles n'auront pas de nourriture parce qu'en ce moment par exemple, on n'a pas une grande envolée de pucerons, enfin ou un développement de pucerons. Il fait trop froid. Matin.
Mais il fait pas
chaud dehors. Bah elles vont malheureusement. Alors soit elles vont s'enterrer parce qu'elles vont être assez malines pour pouvoir laisser passer le mauvais moment et elles vont revenir. Soit il y en a une partie qui mourra. Hein, mais ça c'est quand même la nature. Hein, il faut quand même laisser faire la nature.
D'accord.
À ce niveau-là.
Voilà Raymond.
Ok, merci
à vous.
Beaucoup.
Alors ça nous permet de.
Merci.
Cette question était intéressante parce qu'effectivement, on va dire que dans le principe du biocontrôle. Alors, qu'est-ce que le biocontrôle? Biocontrôle, en fait, c'est la gestion des populations d'agresseurs, ce qu'on appelle les bio-agresseurs aujourd'hui, plutôt qu'évidemment leur éradication et en privilégiant systématiquement l'utilisation, alors, soit d'organismes vivants, on vient de le dire, avec des coccinelles par exemple, soit des mécanismes d'interaction ou des substances d'origine naturelle. Alors, quand on parle de mécanismes d'interaction, ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui des phéromones, par exemple. Les pièges à phéromones, les phéromones qui sont des substances qui attirent sexuellement les insectes, enfin, ça leur parle un petit peu, hein, c'est comme des éléments de séduction. Eh bien, quand on pose donc ces substances dans un piège collant, eh ben on va piéger notamment des carpocaps ou des processeurs de pain ou même maintenant de la pyrale du buis. Il y a pas mal de choses au niveau des phéromones, mon cher Jacques.
Oui, il y a pas mal de choses. C'est vrai que sur la pyrale du buis, maintenant, on a une proposition à faire aux jardiniers amateurs. Mais bon, voilà, le problème des phéromones, ça fonctionne bien. Le principe, il est bien établi.
Mais ça soigne pas vraiment.
Au départ, les phéromones, c'était un système de piégeage. Bon, voilà. Ensuite, on a mis au point ça dans des vergers. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut une certaine surface. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup d'arbres dans un verger, ça fonctionne très bien. Quand vous avez un arbre fruitier isolé, ça fonctionnera moins bien. Parce que c'est une approche, ce qu'on appelle territoriale. Mm-hmm. Donc, bien sûr, c'est intéressant.
Oui, si vous êtes le seul à faire la démarche.
Voilà, si on est le seul à faire la démarche, ça, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, quoi.
Mais donc, en fait, non, mais ça, c'est quand même intéressant parce que nous sommes aujourd'hui, on va dire, à l'aube d'un mouvement de modification de comportement. Donc ça veut dire que si vous, tout seul, dans votre petit jardin, vous commencez à faire le boulot, vous allez vous dire « Ah, bon sang, ça marche pas trop bien ». Mais il faut en parler aux voisins de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Donc on a encore du monde au téléphone.
Oui, nous avons Claudine qui, justement, a une petite astuce à nous donner. Bonjour Claudine.
Bonjour Claudine.
Bonjour les experts. Oui, donc moi, à chaque printemps, je déprime un petit peu en voyant les mauvaises herbes. Donc moi, je suis de la Mayenne, donc il pleut régulièrement. Donc en général, nous attend le grand soleil pour mettre sel et vinaigre. Donc ça marche, mais je suis pas à Marseille et dès qu'il pleut, c'est reparti. Et je vais donc au supermarché chercher du produit chimique.
Voilà, donc ça, là, c'est une petite astuce pour désherber. Bah, ça marche sur le coup,
alors,
mais
ce que vous faites, Claudine, moi, j'adhère pas 100%, notamment sur le sel, parce que autant le vinaigre, ça a un effet, c'est un acide, donc ça crame la plante, et pourquoi pas. Le sel, lui, ça va vous stériliser votre sol à terme. Alors, bien sûr, si c'est sur des allées pourquoi pas, même si c'est quand même pas extrêmement écolo. Si c'est sur du jardin, enfin des massifs, etc. Moi, je le déconseille quand même. Hein. Alors, ce que vous venez d'expliquer, c'est totalement typique de ce qu'on appelle aujourd'hui des désherbants bio, Jacques.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, ben le vinaigre, c'est de l'acide acétique. L'acide acétique, ça fait partie des produits de biocontrôle. Parce que c'est une substance naturelle, c'est efficace. En revanche, ça n'a qu'un effet de contact, c'est-à-dire que, comme vous l'expliquez, vous mettez votre vinaigre, la plante meurt, enfin la partie aérienne meurt, mais dès la première pluie,
quelqu'un ouvre une porte.
dès la première pluie, ça repart. Donc c'est, il faut le savoir. Hein, donc
oui, on a aussi l'acide pélargonique.
On a l'acide pélargonique également, qui fait la même chose, qui est le même principe, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Hein, il faut bien, mais ce sont des herbicides de contact, c'est-à-dire qu'on tue la partie aérienne. Dès qu'il va pleuvoir, effectivement, quand on est à Marseille, on a moins besoin de revenir.
Ça marche très bien sur
les jeunes mauvaises herbes.
Annuelles émergentes. Voilà. Après, sur des gros trucs, style liseron, chardon, tout ça, ça donne rien du tout. Alors, Guillaume, moi, je voudrais vous interroger là-dessus, parce que ce qui me semble intéressant, c'est ce qui va se passer demain. Est-ce que, justement, sur des problématiques comme cela, que l'on commence à aborder de manière un peu bio, comme le désherbage, est-ce qu'il y a des recherches, est-ce qu'il y a des solutions qui se profilent à l'horizon?
Alors, vous touchez du doigt un sujet important, Patrick. C'est vrai que nous proposons aujourd'hui, comme l'a dit Jacques, de l'acide acétique ou de l'acide pélargonique, qui sont des acides gras qui marchent bien sur le traitement de contact sur quelques mauvaises herbes. Et comme l'a dit notre auditrice, c'est vrai que le problème, c'est que les mauvaises herbes repoussent et comment faire? Donc là, nous avons de la recherche. Mais hélas, je crois que je n'ai pas de bonnes nouvelles pour 2019, peut-être pour 2020 ou 2021. Nous sommes en train de tester des solutions à base d'extraits végétaux qui sembleraient avoir une action préventive sur la levée des mauvaises herbes. Mais on en est vraiment au tout début. Et voilà, je crains qu'en tous les cas, après le 1er janvier 2019, on n'ait pas forcément la solution. Et comme les produits de synthèse n'existeront plus, ben je suis désolé, mais il faudra...
passer à la binette.
Voilà, exactement. Donc,
ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que des grandes entreprises industrielles, parce qu'il y a vous d'un côté, mais il y a aussi les entreprises de recherche comme l'INRA, etc., aujourd'hui travaillent toutes dans le même sens et on peut espérer quand même à terme d'avoir petit à petit, effectivement, ça demandera du temps, mais des remplacements, parce qu'en fait, la recherche est prometteuse quand même.
Oui, exactement. La recherche est prometteuse et comme on parle de solutions naturelles, on observe beaucoup la nature. Par exemple, on s'est rendu compte que là où tombaient les noix, par exemple, souvent l'herbe avait du mal à repousser et on essaie de rechercher s'il n'y aurait pas des choses dans les noix qui
on en a pas mal parlé, ça la juglone et l'allélopathiste, en fait ces substances qui effectivement permettent aux plantes de coloniser l'espace en empêchant les autres de venir sur leur territoire. Ça c'est quand même assez extraordinaire,
incroyable. 8h moins le quart, on revient dans un instant les amis, nous aurons Philippe avec nous qui a une petite astuce concernant la cloque du péché.
Alors là ça m'interpelle, je l'ai lu mais j'y crois pas.
Ah bon, on va voir. C'est Philippe quoi, on va en parler dans un instant. Le 3216 ou jardin@rmc.fr. À tout de suite sur RMC.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Il est pratiquement 8h moins 10 sur RMC. Après la météo, les infos de 8h. Ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra. 2 heures dédiées au bricolage à la maison, à la déco tout à l'heure. Et on parlera d'autres nuisibles, ceux du bois.
Ceux du bois, oui. Alors ceux-là, on en a aussi au jardin.
Les briettes, les capricornes, etc.
On en a au jardin, les œsers, les cossus, les scolites sont des insectes qui rentrent dans les troncs, dans les arbres. Et là, on ne peut pas les dénicher, hein, c'est vraiment... casse-pied.
Comment protéger les plantes de son jardin sans produits chimiques? C'est le sujet qu'on aborde ensemble avec nos invités jusqu'à 8h. Et nous avons Philippe qui est là, qui voulait nous donner sa petite astuce, Patrick. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe, bienvenue.
Bienvenue.
Alors,
merci.
Quel est le produit miracle?
Oh ben, c'est, alors, on parle toujours des composés soufrés qui sont dans l'ail et qui font qu'il a une action contre les champignons et contre ce genre de choses. Et en fait, moi, je plante de l'ail au pied de mes pêchers. Alors, aussi bien de l'ail d'ornement que de l'ail de culture, hein, toutes les sortes d'eau, et ça marche très bien. Mais il faut en planter pas mal, hein. Faut pas hésiter.
Alors moi, je suis extrêmement sceptique, je vais vous dire, pour deux raisons. La première, dites-moi. C'est que votre argument technique tombe à côté, parce que le soufre est essentiellement protecteur contre l'oïdium, et on n'a jamais vu le soufre vraiment avoir une action sur la cloque du pêcher. Et la deuxième, effectivement, c'est que même si il y avait un effet, il faut beaucoup, beaucoup, parce que quand même, la cloque du pêcher est une maladie particulièrement virulente. Alors, vous êtes dans Lyon, donc oui. Effectivement, c'est quand même une région dans laquelle la cloque du pêcher sévit de façon assez redoutable.
Philippe, mais vous avez testé ça? Ça marche chez vous?
Moi, je le teste, mais pas dans Lyon, parce que je viens de m'installer dans Lyon. Je le teste à Paris, parce que j'ai un jardin avec des pêchers à Paris, en banlieue parisienne, et là, ça marche très bien.
Mais vous avez combien de plants d'ail au pied
J'en mets au pied du pêcher, j'en mets une vingtaine.
D'accord.
Alors je vois la moue de mon ami Jacquemie, qui est un peu similaire à la mienne. Alors Jacques,
je suis un petit peu surpris parce qu'effectivement le Taphrina deformans, c'est l'agent de la cloque du pêcher. C'est très spécifique. On sait que dans l'arsenal des produits utilisables en agriculture biologique, si on fait un traitement à base de cuivre, une bouillie bordelaise, à un instant très précis au moment du débourrement, ça marche. Après, c'est plus la peine en saison de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la contrôler en faisant un seul traitement en saison.
À l'oxychlorure de cuivre d'ailleurs qu'avec
et plus qu'à l'oxychlorure que le sulfate. Mais le sulfate va continuer d'être utilisable alors que l'oxychlorure va disparaître. Donc voilà, j'anticipe. Mais ma foi, si vous n'avez pas de cloque, tant mieux, j'allais dire. Hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct entre l'ail et le fait que vous n'ayez pas de cloque.
Et Guillaume, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, effectivement, ça fait que confirmer pour la cloque, les solutions naturelles qui existent aujourd'hui, c'est les solutions à base de cuivre, comme vous l'avez déjà dit. C'est vrai qu'à ma connaissance, le soufre n'a pas d'action sur la cloque du pêcher. Donc voilà. Après, effectivement, le bouillie bordelais, c'est une action éventuellement une fois à l'automne, et puis comme l'a dit Jacques, au moment du débourrement du bourgeon, et après. Ma foi aussi, faire attention utiliser des solutions naturelles pour tout ce qui est insectes, puisqu'on sait que la cloque peut être parfois provoquée ou en tout cas peut être renforcée par la piqûre de certains insectes. Donc, faire attention aussi à cela.
Alors, Philippe, vous n'avez pas convaincu nos experts.
Non, je voulais renforcer le propos.
En tout cas, merci pour votre petite astuce.
Renforcer le propos de Guillaume en disant qu'un traitement, donc, autorisé en agriculture biologique, à savoir avec du cuivre à l'automne, au moment où les feuilles commencent à tomber, est tout à fait efficace pour éviter que les spores du champignon ne persiste sur la plante pendant l'hiver. Et deuxième chose, bien évidemment, vous ramassez, alors dès le printemps, quand les feuilles cloquées tombent, mais aussi à l'automne, toutes ces feuilles, et vous ne les compostez pas. Ça, j'insiste énormément là-dessus, c'est-à-dire que toutes les plantes qui ont été parasitées par quoi que ce soit ne doivent pas être utilisés dans le compost, parce que c'est la meilleure façon de transmettre la maladie. Alors là, on est rentré dans l'aspect des maladies, et au niveau du biocontrôle, Jacques, on est quand même un peu démuni pour l'instant. On a le soufre, accepté en agriculture biologique pour plutôt l'oïdium, et le cuivre.
Et le cuivre.
Point final.
Oui, pour le moment, on a un bacillus subtilis, mais ça s'utilise en préventif, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que quand on parle biocontrôle, on est bien armé quand même contre beaucoup d'insectes, beaucoup de ravageurs. D'accord. Ensuite, le désherbage, parfois on a quelques produits, et puis sinon il y a la binette et d'autres, voilà. Mais en matière de maladies, c'est là que c'est le plus compliqué.
Alors j'ai vu sur le site de l'INRA, parce que je me suis passionné hier pour cette émission, je peux vous dire que il va se passer des trucs. Hein. Guillaume a dit, c'est pas pour demain, mais il va s'en passer. L'INRA a trouvé un champignon qui est capable de lutter contre un autre champignon redoutable, à savoir la pourriture grise. Il a trouvé aussi que l'extrait de la plante, la renouée de Sakhaline. Alors, la renouée de Sakhaline, c'est une peste infâme, presque aussi que la renouée du Japon, mais dont l'extrait aurait une véritable efficacité contre l'oïdium, donc le blanc, maladie grave. Et ils ont surtout trouvé un autre champignon qui s'appelle Ascomita, de souche Y3, messieurs, dames, qui inhibe la croissance des oomycètes. Alors, c'est quoi les oomycètes? Eh bien, ce sont les organismes qu'on croyait être des champignons dans le temps, et notamment, on le connaît très 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 bien, les mildiou. Et si, demain, on a ce champignon qui peut vraiment bloquer la croissance, inhiber la croissance du mildiou, ça va être une révolution totale. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que ça n'a aucun effet sur l'environnement.
Ouais. On avait une petite question intéressante de Thomas qui nous dit, est-ce que vous avez une solution pour éviter la repousse de l'ambroisie?
Ben non.
L'ambroisie, rien?
Ben non, l'ambroisie, c'est une peste redoutable. Alors, l'ambroisie, elle est surtout, elle sévit surtout dans la région de Guillaume.
Oui,
c'est vraiment dans le Rhône-Alpes qu'on a des problèmes.
Mais qu'est-ce
avec
qu'on va faire en 2019 alors?
Allergène. Alors, ce que vous dit le ministère aujourd'hui, et je vous laisserai la parole à Jacques qui connaît encore mieux le ministère que moi, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit, dans les cas extrêmes, on aura le droit de réutiliser les produits chimiques, parce qu'il n'y a que ça d'efficace, n'est-ce pas Jacques ?
Voilà, c'est-à-dire que quand nous, on a soulevé la question des choses où on n'avait plus de solution, mais on nous a dit, mais à ce moment-là, on donnera des dérogations.
Ah d'accord.
Mais nous, c'est une des critiques que l'on fait quand on prend un texte en disant déjà, dès le départ, va y avoir des dérogations, c'est que le texte n'est pas bon.
Voilà. Bien sûr. Ouais. Alors, une chose, l'ambroisie, traitement obligatoire. Vous êtes obligé de l'éliminer.
D'accord.
Parce que ça aussi, on l'a pas dit. Vous avez d'un autre côté, on vous interdit tout. Ouais. Mais de l'autre côté, on vous oblige à traiter contre certains organismes nuisibles.
Hein. En plus.
C'est quand même un peu paradoxal. Mais on y reviendra parce que il y a plein de choses qui vont se faire. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup à nos invités, Patrick. On se retrouve bien sûr samedi prochain. On sera là, 6h-8h.
Tout à fait. Merci Guillaume. Merci Jacques. Et puis, la grosse bise aux jardinières et à ma petite jardinière. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Et rappelons que toute l'actualité du jardin liée à Patrick est à retrouver sur la page Facebook de votre jardin sur RMC. Vous cliquez sur j'aime.
Voilà. Tout ce qu'il y a à faire au jardin ce week-end.
Et dans un instant, il sera là, Christian Pessé.
Mais oui, je suis déjà là, d'ailleurs.
On va parler d'autres ravageurs, mais cette fois-ci du bois.
Hein. Les petites bêtes du bois, là.
Voilà. Non. Après la météo et les infos, 2 heures dédiées au bricolage à la maison La Déco. Avec Christian Pessé, vos questions au 32-16. À tout de suite.